Les pieds sur terre, quartier d'été.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
La scène se passe dans une salle de bain. Sous la douche, une femme, blonde, aux cheveux courts, se lave tranquillement. Elle ne voit pas l'ombre qui se profile derrière elle. La silhouette, l'ombre, tire brusquement alors le rideau de douche et brandit un énorme couteau. Ceux qui ont vu Psychose, le film d'Alfred Hitchcock, savent ce qui se passe ensuite. Aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, ce sont des histoires qui font peur, en même temps que des histoires de gens qui ont peur. Des histoires aussi sur la peur, son odeur, ses cris. Des histoires où l'on retient son souffle, on concentre toute son attention à attendre, avec beaucoup d'émotion, d'angoisse parfois, le dénouement d'un problème, l'issue d'une situation, la fin d'une histoire présentée comme inachevée. Aujourd'hui, une jeune femme est menacée de mort par son compagnon. Un jeune garçon se fait attaquer par une horde de rats. C'est la plus grande peur de leur vie, mais la tension, le suspense ne sont pas tant créés par leur peur que par la curiosité qu'on a du dénouement et par le caractère tragique des événements ou des personnages présentés. L'attention, ainsi guidée, tient celui qui écoute ou qui voit dans un état de grande réceptivité. Ce qui lui permet au passage de s'ouvrir, de s'intéresser, comme incidemment, à des mondes, des univers, des cultures, des époques qui autrement lui seraient restés étrangers. C'est pourquoi les histoires qui font peur, les romans policiers et autres récits à suspense venus de Chine, d'Islande, du bout du monde et de tous les âges, tiennent les lecteurs éveillés bien davantage que la légende finlandaise du Kalevala ou autres récits introspectifs. Hitchcock, qui a codifié les règles du suspense, donne un exemple assez parlant de la différence entre le suspense et la surprise. Imaginez que nous parlons et que soudain une bombe explose sous la table. Voici 15 secondes de surprise. Mais si le public a vu l'anarchiste la déposer avant que nous nous installions et qu'il la règle pour qu'elle explose dans un quart d'heure, j'offre alors au spectateur 15 minutes de suspense. Tout de suite donc le grand frisson des histoires qui font peur, des histoires à suspense dans des univers qui vont avec. Une idée et deux récits de Stéphanie Labadie pour Les Pieds sur Terre, quartier d'été sur France Culture, une émission qui a déjà été diffusée le 12 avril 2016.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
C'était il y a environ 7 ans je crois. J'étais en train de me séparer depuis plusieurs semaines d'un homme avec lequel j'avais vécu pendant presque 3 ans, avec qui ça s'était bien passé, on va dire la moitié de la relation, 1 an et demi, et avec qui c'était ensuite ça s'était dégradé pour vraiment devenir inintéressant et pas du tout agréable pour moi. Et aussi parce que j'avais rencontré quelqu'un. Et que c'était clair dans ma tête que de toute façon il fallait qu'on se quitte. On avait déjà commencé à se séparer, en fait on était dans un processus de séparation mais qui traînait parce qu'à chaque fois que je lui disais que je ne l'aimais plus et que je voulais le quitter et qu'il fallait qu'il parte parce qu'en fait il habitait chez moi, en fait il ne se passait rien, il ne partait pas. C'était complètement surréaliste quoi. Il ne voulait absolument pas entendre le fait que je lui disais que c'était terminé. Et donc ce jour-là, je pense qu'on en avait encore parlé en disant que non, je passerais pas la soirée à la maison parce que j'avais pas envie d'être avec lui. Il devait rentrer de voyage ou il était rentré la veille, je sais plus. On dormait dans des chambres séparées. Moi, j'étais à un étage, lui, il était à un autre. Et ce soir-là, j'étais allée dîner avec mon nouveau petit ami, en fait, avec le nouvel homme que j'aimais. Et j'ai passé la soirée avec lui. Et au moment de rentrer chez moi, je me suis dit que je voulais pas rentrer chez moi, que j'allais aller dormir chez mes parents, qui habitent à Paris aussi, parce que je le sentais pas de rentrer chez moi comme ça, avec lui dans la maison. Enfin, j'avais pas envie d'être avec lui dans la maison. Et puis, j'en avais parlé à une amie qui m'avait dit « Oui, mais tu sais, une séparation, ça prend du temps, il faut beaucoup parler. » Et du coup, je me suis dit « Bon, finalement, c'est chez moi, je vais rentrer chez moi. » Et puis, comme ça... demain matin, on évoquera de nouveau la séparation et le fait qu'ils partent, quoi. En fait, j'aurais jamais dû faire ça. Mais je l'ai fait et je l'ai regretté. Donc ce soir-là, je finis par rentrer chez moi. Je monte à l'étage pour me coucher dans ce qui était devenu ma chambre depuis une quinzaine de jours. Donc quand je me couche, moi je dors toujours à poil. Donc en fait, je me couche, je change pas mes habitudes. Donc je m'endors, je pense, mais j'entends que l'homme que je suis donc en train de quitter monte les escaliers et tape à ma porte en disant « Élise, viens avec moi, pourquoi t'es pas avec moi ?» Et un peu en chouinant avec une voix bizarre. Et je lui dis « Non, non, je dors pas avec toi, non. » Et en fait, là, il rentre dans la chambre et il rentre assez violemment, en fait. Je pense, je me souviens, il a poussé la porte. Et là, je me suis dit qu'il avait dû se droguer ou boire ou les deux. Enfin, en tout cas, il n'était pas du tout dans son état normal. Et là, il me dit « Oui, t'étais avec qui ?» Enfin, il commence à me faire une espèce de scène. Et moi, je dis « Mais écoute, je t'ai déjà dit 4 fois, je t'aime plus, on se quitte, je vais avec qui je veux, je t'ai dit que j'avais rencontré quelqu'un, etc. » Et là, là, il se jette sur moi, mais... vraiment, je n'y attendais pas du tout. Il se jette sur moi, il me plaque sur le lit, il grimpe sur moi avec ses genoux et il commence à me prendre au cou. Et là, ça allait super vite, hein, parce qu'entre le moment où je l'ai entendu, où il a dû dire « Mamour, tu descends, viens », et puis où il a pété les plombs et qu'il m'a sauté dessus, en vrai, ça a dû prendre, je ne sais pas, peut-être je sais pas, 15 secondes. Et en fait, au moment où il m'a sauté dessus, là, je me suis dit que j'allais mourir. Et en même temps que j'étais en train de me dire ça, j'étais en train de me dire, mais comment est-ce que t'as pu être aussi bête de te mettre dans cette situation? Parce que vraiment, moi qui suis quelqu'un plutôt de raisonnable, de posé, de me retrouver dans une situation qui était... enfin, c'était Bertrand Cantat, quoi. C'était horrible. J'allais être dans les faits divers, quoi. C'était vraiment la honte d'être dans les faits divers. Et là, donc, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais je me revois vraiment sur le dos, avec lui sur moi, et puis de commencer à m'étrangler. Après, il relâche la pression. Donc je me dis, bon, il est juste en train d'essayer. Il n'est pas en train de le faire. Donc bref, moi, tout de suite, ça, je l'interprète comme une possibilité de m'en sortir. Et donc là, je me mets à pleurer, à supplier... Mais c'était horrible, j'entendais ma voix et je n'avais jamais entendu cette voix de ma vie. C'était comme dans un film d'horreur en fait. Je crois que je criais « ne me tue pas, ne me tue pas ». Je crois que c'était ça, je t'en supplie, ne me tue pas, ne me tue pas. C'était vraiment un cri de détresse totale. Et en même temps, c'était horrible parce que c'était vraiment une situation d'abaissement. Enfin, je m'en souviens, c'était comme quand on torture quelqu'un, j'avais le sentiment d'être complètement maltraitée, de devoir dire que non seulement je me fais étrangler, mais en plus je faut supplier pour pas qu'on m'étrangle. Enfin, c'était une situation qui était abominable, quoi, qui était vraiment humiliante au possible. C'était affreux. Ensuite, dans la chambre dans laquelle je dors, la chambre est mansardée et en fait le lit est au niveau de la fenêtre. Et donc il a ouvert la fenêtre et il m'a tiré par la jambe pour me jeter par la fenêtre. Et là, je me dis, bon, il faut que je sois plus intelligente que ce qui est en train de m'arriver. Dominer la peur, en fait, qui est en train de s'installer. Et que je trouve une solution pour sauver ma peau. Et donc, je me dis, bon, je vais lui faire croire que je vais faire ce qu'il veut. Et puis, je vais me barrer en courant. Donc, je le supplie de me lâcher, etc. Je lui dis, ok, je vais venir dormir avec toi. Enfin, j'essaie de l'apaiser, puisque finalement, c'était sa première demande quand il est venu me voir. Et... on se rassoit au bord du lit et je lui dis bah si tu veux je redescends avec toi, je descends dans la chambre avec toi. Et en fait là je descends pas du tout dans la chambre avec lui, je prends mes jambes à mon cou, je me tire en courant mais comme un chat qui dévale les escaliers jusqu'à la porte d'entrée. En fait, en plus, la maison, elle est mal fichue. Donc, il y a 3 portes avant d'arriver dehors. La porte est lourde. Un petit couloir, 2 portes. Donc, je fais le truc vraiment à fond, à fond. Et lui, il avait décidé de m'attraper, quoi. Il était bestial. J'avais une bête fauve derrière moi, quoi. Je pense que j'étais pas loin qu'il m'attrape. Peut-être, je sais pas, 1 m, 1 m 50, un truc comme ça. Et là, je me suis retrouvée dans la rue. Et je hurlais encore, je continuais à hurler, au secours, au secours, au secours, toute nue en train de courir. Là, quand on le raconte, ça peut paraître un peu incongru ou bizarre, mais en vrai, sur le moment, peu importe. En fait, on s'en fout complètement d'être à poil ou quoi que ce soit. Donc l'idée, c'était de me sauver, de partir pour pas mourir. Et la seule chose, quand je me suis retrouvée dans la rue, en fait, j'étais bien plus embêtée d'être pieds nus, parce que j'avais peur de me blesser, que d'être nue, parce que... Là, on est à tel degré d'urgence qu'il n'y a plus rien qui compte, quoi, en fait. Donc, je suis dans la rue, je cours. Pieds nus, nus, il est vraiment très 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 proche de moi. Je hurle au secours, et là il n'y a personne, hein. C'est désert, 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 désert. On est vraiment dans un quartier résidentiel, il n'y a personne la nuit. Et là je me disais, en fait là il suffit qu'il m'attrape, qu'il me pousse, que je tombe, que ma tête cogne le trottoir, je suis morte quoi. Ça continuait en fait, c'était infernal comme truc. Et en fait, là j'ai une idée, une super bonne idée, enfin, d'après moi. J'ai pensé que j'habitais juste à côté de la caserne des pompiers. Donc j'ai pris à droite, la rue qui mène à la caserne. J'ai couru, 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 couru. Et là, paf, je suis rentrée. Je suis rentrée dans la caserne. Et en fait, j'ai dû arriver, je sais pas, à l'endroit où ils sont de garde. Je sais pas trop. Et je me souviens, le mec qui m'a vu arriver, je pense qu'il a dû se dire, mais il y a un truc horrible qui vient de se passer. Et il m'a tout de suite donné une couverture. Pour que je me couvre, pour pas que je reste nue devant lui. Je devais être en train de haleter, de transpirer. Je me souviens, le truc dont je me souviens, c'est l'odeur de ma transpiration. Et c'était une odeur, mais qui était immonde, quoi. Une odeur, ça sentait la peur, ça sentait l'hormone, ça sentait... C'était sale, enfin, c'était affreux. Et c'était encore plus humiliant d'avoir cette odeur sur soi que de se retrouver à poil chez les pompiers après s'être fait courser par son mec... En se disant, faut que je sauve ma peau parce qu'il va m'étrangler. Et ensuite, il y a tout de suite la police qui est venue, tout de suite. Vraiment, je crois que dans ma tête, 2 minutes après, il y avait une policière qui était assise à côté de moi, qui me demandait ce qui s'était passé. Et donc, je racontais. Et eux, ils voulaient surtout savoir si j'avais été violée, en fait. Et moi, je disais non, il a voulu m'assassiner. Et en fait, on avait l'impression que c'était pas très grave, qu'il ait voulu m'assassiner, tout ça, quoi. Ce qui était important, c'est de savoir si j'avais été violée ou pas. Et donc ensuite, je sais que la police est allée l'arrêter. Aujourd'hui, cet épisode, c'est vraiment un truc auquel je pense souvent toute seule. Alors après, j'en parle pas, mais au moins une fois par semaine, j'ai ce truc-là qui me revient. Après, en plus, j'habite toujours au même endroit. Donc, tous les jours, je vois la chambre où il m'a étranglée, où il a voulu me jeter par la fenêtre. Et donc, je suis partie en courant dans les escaliers. Les lieux ont changé parce que la chambre dans laquelle ça s'est passé, c'est devenu la chambre de mon fils. Le papa, c'est la personne que j'avais rencontrée et pour laquelle je suis partie à ce moment-là. Donc, il y a plein de choses qui ont changé. Mais c'est toujours mon cadre de vie. Donc, en même temps, je pense que ça doit jouer aussi le fait que je n'oublie pas. Et puis, ce sentiment de peur, je sais que quand j'arrive pas à m'endormir le soir, si je suis angoissée, c'est souvent à ce moment-là que revient ce souvenir, en fait. Voilà, c'est un petit traumatisme, mais c'est un truc qui est ancré. Enfin, c'est un truc, après, j'ai pas non plus envie que ça prenne toute la place. C'est... En fait, je diminue totalement l'impact du truc et la gravité de la chose, parce que je pense que ça aurait pu... Enfin, il n'y a pas de demi-mesure, quoi. C'est toujours tu meurs ou tu meurs pas. Donc, à partir du moment où tu t'en sors, finalement, c'est pas grave, quoi. On va pas passer 1000 ans dessus, quoi. C'est un peu ça. Thank you.
France Culture, les pieds sur terre.
C'était en 1962 ou 1963, donc je devais avoir 7 ou 8 ans. Et l'histoire qui m'est arrivée est arrivée au marché aux puces, puisque je suis né aux puces, qui prenait la place, si vous voulez, des anciennes fortifications de Paris. C'était une zone où on ne construisait rien, et ça s'est appelé la zone. Ça ressemblait à une succession de roulottes et de petites bâtisses en carton, des fois en bois ou en tôle ondulée. Et c'était plutôt occupé depuis fort longtemps par les gitans, les gypsies, les manouches, les gens du voyage, les sintis, toutes ces communautés de gens du voyage. Et à cette époque-là, donc, on avait commencé à construire le périphérique. Il a été fini dans les années 72 ou 13. Mais déjà là, on cassait et on virait les gens du voyage et on commençait à essayer de restructurer la zone. Ce jour-là, je partais jouer au ballon et j'allais à l'endroit qui, pour moi, était un endroit de la zone habituel, mais il avait considérablement changé. C'est-à-dire que j'avais aussi perdu mes habitudes d'aller jouer avec les gens du voyage qui étaient déjà partis. Et donc j'allais jouer tout seul et j'allais m'amuser dans le chantier. Et je crois me souvenir qu'on construisait plutôt les piliers de pont et les ponts du périphérique avant de construire les routes du périphérique. Et c'était sous un futur pont qui se trouve entre la porte de Clignancourt et la porte Montmartre. C'est-à-dire c'est un lieu un petit peu plus isolé que les autres. Donc c'est pas un lieu très visité et c'est pour ça que j'étais allègrement mais complètement seul. Et c'est à ce moment-là, alors que je commençais à m'amuser, que je commençais à faire de la jonglerie avec mon petit ballon de football, que j'ai vu comme deux vagues grises et noires de chaque côté arriver, sortant des terre-pleins, de lieux où avaient habité les gitans et qui n'étaient pas encore en cours de construction. Et j'ai mis un certain temps à comprendre que c'était pas une bâche géante, grise d'un côté, une bâche géante noire de l'autre, qui bougeait avec le vent, mais avec mes oreilles, mes yeux de 8 ans. Donc quand j'ai vu que cette vague bougeait, mais venait vers moi, de droite comme de gauche, j'ai compris que c'était autre chose. J'ai pensé aussi à de l'eau croupie qui coulait. Et quand j'ai vu que cette eau croupie, effectivement, encore une fois, avait des poils et bougeait trop vite et trop bien structurée pour n'être que de l'eau, j'ai enfin décelé que c'était des rats. Et dans ma tête d'enfant, ils étaient des milliers. Ils étaient en bande. C'est-à-dire, c'est difficile de cerner. Mais les rats de l'époque étaient gros comme le bras quand même. C'est des rats qui étaient capables de tenir tête à des chats, hein. Cette histoire qui m'est arrivée, bien évidemment, j'en bégaye encore parce que ça a été terrible, terrible de puissance. Donc, je vois ces deux vagues venir vers moi. Et ils commencent pas par attaquer le bas, ils essaient de monter à la ceinture. Alors peut-être pour me déséquilibrer, peut-être que c'était prévu comme ça, et puis ils étaient suffisamment en quantité pour se dire, parce que je crois que le rat est intelligent, si on arrive à le foutre par terre, on a gagné. Donc leur but, certainement, animal, leur instinct guerrier, était de me faire tomber. Et les cris ont commencé quand ils m'ont mordu. Et puis, quand ils sont nombreux qui crient, on dirait le film de Hitchcock sur les oiseaux. C'est terrible, parce qu'en plus de l'image, j'avais la musique. Alors, à partir du moment où ils m'ont attaqué à la ceinture, j'ai piétiné, bien sûr, je piétinais. Mais je piétinais sur un sol qui devenait meule, parce que j'avais des rats sous les pieds. Il y en a un qui m'a mordu la main, mais peu, mais c'est tout. Je me souviens avoir secoué mon bras. J'ai pas de mémoire olfactive de cette histoire. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'odeur. Il n'y avait pas une odeur de fauve, une odeur dégoûtante, pas du tout. Je ne me souviens pas de ça. Je me souviens du bruit, je me souviens de la vitesse d'exécution, et je me souviens de la détermination. Pour moi, ces animaux avaient une intelligence quasi-humaine et une stratégie quasi-militaire. Voilà. C'est ce que j'ai pu analyser plus tard. Mais ils ne m'ont pas fait mal. Je crois que je n'ai pas eu le temps d'avoir mal. Ils m'ont mordu les mollets, les cuisses, surtout les chevilles. J'étais en short en plus. Je me souviens de ces deux dents qui dépassent sous le nez, là, de ces babines, hein, qui se soulevaient. Quand ils m'attaquaient, il y avait les deux dents, il y avait les babines qui se soulevaient comme ça. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'ils voulaient prendre un gros morceau de moi-même, quoi. Mais mon souvenir n'est pas la douleur. Mon souvenir principal, c'est la peur. Une peur terrible. J'ai crié, j'ai hurlé, pensant leur faire peur. Mais je pense que ma vraie peur, elle est venue du fait que, étant moi-même un enfant de la zone, et donc un garçon assez spontané, assez instinctif, assez capable de jauger une situation en l'état, j'ai vite compris que je n'étais pas en force et que je n'y serais jamais. C'est-à-dire que pour moi, j'avais déjà fait le diagnostic. Le diagnostic, c'est si personne vient m'aider, je suis mort. Et puis je me suis surtout dit, si je tombe, là, je vais avoir mal. Et il y a aussi une autre chose qui me faisait peur, l'état dans lequel on allait me trouver si ça arrivait. Je pensais à ma mère, c'est-à-dire je pensais à ma mère, je disais, s'il me bouffe, je vais vraiment pas être beau, quoi. Sont sur moi et je suis en train de me dire que peut-être que ma dernière heure a sonné. Mais je hurle et bien évidemment, j'ai décidé de me battre jusqu'au bout, malgré mon jeune âge, et d'aller jusqu'au bout dans ma quête d'un soutien. Et c'est là que le miracle s'est produit en vérité. C'est-à-dire que un biffin, ce qu'on appelle un biffin chez nous, c'est un chiffonnier ou un appareil. Voilà, apparaît avec sa canne et avec ses chaussures. J'ai dit, on était vachement pragmatique. J'ai dit, il est armé, il a ce qu'il faut. Vous voyez ? Ce que je veux dire, c'est que j'aurais vu arriver une femme avec une poussette, je me serais dit, ça sert à rien. Et lui, je sais qu'il allait me servir. Voilà, c'est un petit peu comme ça. C'est vraiment de l'instinct. Et j'ai vu ce monsieur que je connaissais en plus. Que je connaissais, puisque c'était un voisin de nous, bien sûr. On se déplaçait pas tant que ça à l'époque, donc moi j'étais à 50 mètres de chez moi, et lui il était à 40 mètres de sa boutique. Sa boutique c'était un trou, mais c'était une boutique pour lui. Et cet homme, ça peut paraître improbable, mais j'ai encore des témoins, ma sœur, qui était là à l'époque, s'appelait Monsieur Gruyère. Quand je dis qu'il s'appelait Monsieur Gruyère, on l'appelait Monsieur Gruyère. Parce qu'on marchait aux puces, on avait tous des noms, des surnoms, des prénoms. Il y avait Madame Sardina, et il y avait Monsieur Gruyère. Madame Sardina, elle vendait des sardines, Madame Sardina, et Monsieur Gruyère, lui, il vendait ce qu'il trouvait. Mais il était surtout marchand de clés, cet homme-là. Et c'est une image d'Épinal du biffin, Monsieur Gruyère. C'est-à-dire, c'est un homme fort, avec une grande barbe blanche, avec un chapeau de travers, avec une besace, avec une veste trouée au coude. Et il a tout de suite compris. Tout de suite. Il a tout de suite compris, il a tout de suite couru. Alors il avait au pied, je vous dis, des chaussures qu'on appelle des godillots. Les godillots, c'était les chaussures des soldats de l'armée française de l'époque. C'était une grosse chaussure de cuir avec une grosse semelle. Les siens n'étaient pas très bien lacés, je me rappelle. C'est-à-dire, il n'avait pas pris soin de les fermer complètement, mais elle le tenait quand même au pied. Et puis il avait son bâton. Alors son bâton, il n'était pas jeune, mais il n'était pas vieux. Est-ce qu'il avait son bâton pour... C'était peut-être son crochet. Parce que les gens qu'on appelle des biffins ou des chiffonniers, on les appelle aussi des crocheteurs. Voilà, parce qu'ils ont un crochet pour fouiller dans les poubelles sans se blesser. Et à mon avis, ça devait lui servir de crochet, ce bâton. Donc il m'a tiré d'affaire. Et quand je dis il m'a tiré d'affaire, il m'a vraiment tiré d'affaire. C'est-à-dire qu'il m'a extirpé de cette attaque en me sortant par la peau du dos, par la ceinture, il m'a soulevé comme ça. Et il m'a sorti des rails avec son bâton, ça je me souviens parce qu'il m'a mis un coup sans le faire exprès. Il m'a nettoyé des rats qui étaient encore accrochés sur moi. Pas coup de bâton. Il leur a mis des coups. Et il m'a sorti comme ça, avec son bâton et ses godillots de ça. Et lui par contre, il en a massacré un bon nombre. Hein. Je me souviens parce que ça saignait quoi. Hein. ça saignait. Ça saignait sur moi parce que j'avais du sang qui coulait des jambes. Mais ça saignait sur les rats qui étaient restés sur moi parce qu'il les avait quasiment décapités. Et ça saignait parce que quand il m'a sorti d'affaire, il est retourné au combat. C'est-à-dire que ça a dû, soit ça l'a amusé, soit il s'est dit, bande de vaches, vous allez déguster maintenant. Voilà. Mais ils ont vite compris aussi. Parce que si moi j'étais instinctif, eux aussi ils l'étaient. Ils sont très vite partis. Et les hordes sont parties, par contre, cette fois-ci en ordre dispersé, justement, dans tous les sens, en étoile, ils sont partis, mais surtout pas autour de moi. Je crois qu'ils ont pigé, ils ont compris que là, fallait plus y aller, quoi. Je n'ai pas dit merci. Je n'ai pas dit merci parce qu'on ne disait pas merci dans cette vie-là, dans ces gens-là. On ne se parlait pas comme ça. On ne se disait pas « je te dois la vie ». On se disait « je te dois de l'argent ». Voilà, on se devait le respect. Mais se devoir la vie, ben, la vie avait la valeur qu'elle avait. Maintenant, effectivement, que je suis là, tranquille, heureux, bien installé, lui, il est mort, évidemment. Mais... ça aurait été pour moi un grand plaisir de lui dire merci. J'ai malheureusement pas pu le faire et quand j'aborde ce sujet, ça me donne une certaine tristesse, effectivement. Le lendemain, j'avais du sparadrap sur les jambes et puis je suis reparti à l'école. Non, d'ailleurs, j'allais pas vraiment à l'école à l'époque, malheureusement. Mais je suis reparti jouer... pas au même endroit. J'ai mis du temps à y retourner. Et même quand j'y repasse maintenant, à cet endroit, j'ai toujours, toujours un frisson qui me traverse. Toujours.
Quartier d'été, c'était Le Grand Frisson, un reportage de Stéphanie Labadie réalisé par Sylvain Richard avec Vanessa Nadjar et diffusé pour la première fois le 12 avril 2016.